Ô Dieu, nous désirons entrer dans ton silence. Ce silence qui est louant. Et nous voudrions nous abîmer devant toi dans cette adoration muette, n'ayant plus dans nos pensées qu'un seul objet, Jésus, le Fils de ton amour, celui qui a été ta joie et tes délices de toute éternité, et que tu nous as donné pour que nous connaissions le même bonheur que toi, le bonheur du Père. Ô Dieu, comment pourrions-nous encore végéter ici-bas, rechercher le bonheur dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors que tu as voulu nous faire connaître la source des eaux vives, pour que nous puissions nous y abreuver et que de notre cœur débordant des fleuves d'eau vive puissent jaillir dans ce monde sur les âmes qui sont sans espérance et sans Dieu. Bénis cette soirée. Prends-la en main. Tu nous connais nom par nom. Tu sais tout de nous, de nos pensées actuelles, de nos tendances, de nos aspirations, de nos désirs, de nos déceptions, de notre attente. Alors réponds, Seigneur, car nous ne le pouvons nous-mêmes, mais ton esprit qui connaît les besoins peut nous saisir et apporter à chacun la parole qui le concerne, et que personne parmi nous ne détourne l'épée de son propre cœur, mais qu'étant touché dans son âme et dans sa conscience, il laisse cette parole opérer en puissance dans sa vie. Et ce que je te demande pour les autres, je te le demande pour moi-même, craignant qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Tiens-nous dans ta présence. Tu es notre premier auditeur. Donne-nous de parler devant Dieu en Christ. Amen. Mes amis, ce soir, je voudrais tout d'abord vous faire entendre deux textes pour introduire notre sujet, la pratique des vertus chrétiennes. Je lis dans les Colossiens, au chapitre 2e, verset 9e, parlant du Christ, l'apôtre dit: en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3e, verset 21, qui rejoint exactement ce que notre frère nous disait en citant le psaume 115, qui est l'un de mes favoris, non point à nous, mais à ton nom seul. Donne gloire, le solide et au gloria de Calvin. Verset 21 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. C'est quand même fantastique. Si vous pensez à la force de ces mots, est-ce que vous le croyez? Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, c'est-à-dire Pierre, soit le monde. Est-ce qu'on peut encore le désirer s'il est à nous? Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et le Christ est à Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole, et qu'elle trouve vraiment le chemin de nos cœurs. Mes amis, hier soir, le Seigneur m'a révélé qu'avant d'aller plus loin dans mon enseignement, je devais d'abord répondre à certaines questions qui préoccupaient plusieurs personnes parmi nous. Et ce matin, Dieu m'a clairement montré quelle suite je devais donner au témoignage qu'il a voulu que je vous rende hier soir, non pas pour me faire connaître, mais pour vous apprendre à connaître le mystère du Christ dans la vie d'un simple homme qui s'abandonne à lui. Oh, que personne n'ait pu penser hier soir que je désirais parler de moi. J'ai été comme contraint par l'Esprit du Christ de commettre ce que l'apôtre Paul appelle une folie quand il devait dire quelque chose qui le concernait lui-même. Il disait « Je suis un insensé ». De parler ainsi, ce qui compte pour moi, c'est de vous faire connaître le Christ. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas de vous raconter mes expériences, de vous entretenir dans ce camp de mes expériences. Ce qui compte, c'est de vous présenter cette parole de vie qui m'a permis de faire ces expériences. Cette parole et qui va habiter en vous et qui va produire en vous ce fruit béni à la gloire de Dieu. Oui, j'ai cru devoir vous dire ce que le Christ était pour moi en 1981, c'est-à-dire 50 ans après qu'il m'eût fait la grâce de me saisir. Et je ne lui ai pas résisté quand je lui ai donné mon cœur d'une façon totale et définitive, sans espoir de retour. 50 années ont passé depuis. J'ai souligné ensuite qu'en cette année 1981, je peux rendre grâce au Seigneur qui m'a donné sa force de le servir pendant 45 ans, lui donnant, après qu'il m'eut sauvé, entièrement ma vie pour qu'il s'en serve comme il le voudrait. Et si je vous ai dit cela, c'est parce que je voudrais que vous croyiez que ce Jésus qui est devenu mon sauveur veut l'être aussi pour vous. Oh, je voudrais croire qu'il l'est pour chacun de vous aujourd'hui. Que ces choses faites, que vous vous savez rachetés par le Seigneur, que vous savez ce que veut dire mon sauveur, non pas le sauveur du monde, mais mon sauveur, un sauveur personnel, qui vous a sauvé d'un état, d'une condition, d'une situation. Si vous êtes sauvé, vous avez une histoire à raconter, et une histoire qui vous est personnelle. Ce n'est pas un catéchisme que l'on nous a appris. Ce ne sont pas les vérités essentielles du christianisme que l'on a simplement reçues intellectuellement. Nous n'avons pas des idées qui nous sont chères. Nous avons quelqu'un qui nous habite. Jésus. Et ce Jésus, si nous l'avons reçu, que fait-il? Ce Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité, il ne nous garde pas. Pour lui, il nous conduit au Père. Et j'étais légèrement surpris quand quelques-uns m'ont dit parmi vous être un peu étonnés de la manière dont je parlais du Père. Oui, mes bien-aimés, si vous connaissez Jésus, vous devez connaître son Père. Sinon, je ne crois pas que vous ayez une relation réelle et personnelle avec Jésus. Et avec votre Jésus même affiché sur votre voiture, vous êtes encore perdu. Je n'ai pas peur de vous le dire. Un Jésus qui ne nous conduit pas au Père, ce n'est pas Jésus. C'est un autre Jésus, le Jésus de certains prédicateurs qui veulent convertir le monde à toute allure. Le Jésus qui sauve, c'est ce Jésus grain de blé qui est tombé dans la terre. Le Jésus qui sauve, ce n'est pas le Jésus dont vous connaissez la vie par les évangiles, c'est le Jésus que vous avez suivi dans sa mort. Car seule sa mort pouvait nous racheter, nous libérer et nous faire connaître une vie nouvelle. La vie seule de Jésus n'a changé personne. Et l'imitation de la vie de Jésus ne conduit pas au bonheur, mais au contraire au suicide et au désespoir. Car si Jésus est un être qui reste extérieur à ma vie et que je m'efforce d'imiter, je suis perdu. Je suis plus malheureux qu'en voulant suivre la loi, parce que Jésus va plus loin que la loi. Reprenez les mêmes mots, je vous dis, de Jésus, et vous verrez que vous ne pouvez pas l'imiter. Vous pouvez avoir des désirs, mais vous serez toujours culpabilisé en contemplant la vie de Jésus. Ce n'est pas votre vie. Or, nous avons le droit, quand nous sommes authentiquement chrétiens, de dire « Le Christ est ma vie ». Le Christ est ma vie, parce qu'en dehors de Jésus, nous n'en avons pas d'autre. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et vous ne pouvez rien avoir de beau et de tendre, comme l'a chanté mon frère, si vous n'avez pas accepté d'abord de mourir. Il n'y a pas de vie réelle en dehors de cette mort dans le Christ et de cette résurrection en lui. Et c'est par sa mort et par sa résurrection que le Christ nous conduit au Père, là où il est retourné. Va, dis à mes frères, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu, vers mon Père qui est aussi votre Père. Et où sommes-nous maintenant déjà? Nous sommes dans le Christ. Notre vie, elle n'est pas ici-bas, elle est en haut, cachée dans le Christ en Dieu. Et si nous sommes encore dans ces corps de chair sur la terre, ce n'est pas pour nous montrer nous-mêmes, mais c'est pour montrer le Christ. C'est pour manifester quelque chose de ses vertus à lui. Et un jour, lui-même, à son retour, nous montrera dans ce monde. C'est lui qui est notre vie, qui nous manifestera en gloire. Nous n'avons pas à nous manifester, nous. Nous avons à le manifester, lui. Et c'est pourquoi ces vertus qu'on appelle vertus chrétiennes, nous le soulignons, ce ne sont que les vertus qui ont été vues dans la personne du Christ et qui se manifestent en nous. Ce ne sont pas nos vertus propres, mais ce sont les vertus mêmes du Seigneur Jésus, de telle manière qu'on nous reconnaîtra pour avoir été avec Jésus. Oui, ce que je voulais souligner, c'est que ce Sauveur, qui est mon Sauveur, veut l'être aussi pour vous, et vous faire éprouver que le Père, son propre Père, vous aime sur la terre, comme lui-même, Jésus, était aimé. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, mais pour moi, ça a transformé ma vie. Le jour où j'ai compris que Dieu le Père m'aimait comme il avait son fils. C'est fou. Hein? Que Dieu le Père ait pu aimer son fils et trouver en lui tout son plaisir, d'accord, hein? Mais me dire, et c'est Jésus lui-même qui le dit dans sa prière, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous le croyez? Il n'y a plus besoin du psychiatre quand on dit ça. On a un tonique extraordinaire. Le Seigneur même, le Père lui-même même, et dans quelle mesure, comme il aimait son Fils. Voilà qui transforme mon existence. Et je veux vivre dans la conscience de l'amour de Dieu. Il est mon Sauveur. Il m'a fait connaître l'amour du Père. Mais je voulais aussi souligner que le Seigneur Jésus est devenu mon Seigneur. Si réellement je reconnaissais qu'il m'avait racheté, je n'appartenais plus à moi-même. S'il m'a racheté, je ne suis plus à moi-même, j'appartiens à celui qui a payé un si grand prix pour me sauver. On vous dit toujours que le salut est gratuit. Bien sûr, pour vous, mais pas pour lui. Le prix de la grâce, c'est la vie de Jésus. Et si moi, aujourd'hui, je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi. Alors, ça change une vie. Quand je me dis que si je vis, c'est parce qu'un autre est mort pour moi, c'est fantastique. Ce que ça peut orienter une vie d'une façon complètement nouvelle. Mais quand vous apprenez que celui qui est mort pour vous est ressuscité, et que vous pouvez vivre pour le ressusciter, alors pour qui donc voudriez-vous vivre? C'est pourquoi la foi au Sauveur nous amène à la foi au Seigneur. Je reconnais qu'il est mon Seigneur et qu'il a tous les droits sur mon cœur, que ce n'est plus à moi à faire mes plans pour le servir, mais que j'ai simplement à le laisser me conduire et me diriger. Et voyez-vous, quand on accepte la Seigneurie du Christ, il y a bien des choses qui changent dans notre vie. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que la voix d'un homme n'est pas à lui, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. C'est le Seigneur qui a droit de vie et de mort sur moi. Il peut me conduire ici, il peut me conduire là. Ce qu'il veut est toujours bien. Sa volonté est bonne. Est-ce qu'elle est bonne, sa volonté? Est-ce que vous êtes arrivé à pouvoir dire oui, sa volonté est bonne? C'est peut-être pas facile, mais est-ce que vous le croyez? Sa volonté est agréable. C'est pas toujours agréable, hein, humainement. Mais est-ce que vous pouvez vivre assez près du cœur du Seigneur pour dire oui, c'est agréable? Sa volonté est parfaite. Est-ce que vous avez conscience que sans Dieu, rien n'arrive s'il ne l'a pas commandé? Et alors, il ne peut pas y avoir d'injustice en lui, il ne peut pas y avoir d'impuissance en lui. Est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? C'est que mes déceptions, au fond, même de chrétiens, dans ma vie, mes déceptions n'étaient qu'une manifestation de ma volonté propre. Et je n'avais plus à le dire. On s'était proposé ceci, puis les choses arrivent autrement. Et alors on est déçu. Et on se cadre. Non, nous nous proposons toutes choses devant le Seigneur en lui disant, mais maintenant Seigneur, dispose. On est bien obligé de se proposer certaines choses. Nous nous proposons toutes choses en disant au Seigneur, viens, d'après ce que je comprends, d'après ce que je connais, il me semble que je dois faire ceci ou cela, aller ici ou aller là. Mais si toi, tu as une autre pensée, je suis déjà d'accord. Et quand les choses vont autrement que ce que nous pensions, eh bien, au lieu de nous heurter comme cela contre la volonté de Dieu, nous nous mettons tout de suite d'accord avec lui. Et nous le bénissons. Alors, notre vie est une vie de louange. Une vie d'adoration, une vie d'action de grâce. La pratique des vertus chrétiennes. Regardez la volonté de Dieu pour le Fils. Qu'est-ce qu'il disait? Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'était ça, sa nourriture. C'était ce qui le rendait fort. C'était d'être soumis constamment à la volonté divine. Lui qui était le Seigneur des Seigneurs, il est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et plusieurs parmi vous ont été frappés par la mesure de souffrance que le Seigneur m'a donné dans ma vie. Eh bien, je vous dirai très simplement ce soir que cette mesure de souffrance, c'est ma bénédiction. Jésus, lui, a été rendu comme homme parfait par ses souffrances. Il est parvenu à la perfection en tant qu'homme. Il était parfait en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, c'est par la souffrance qu'il est parvenu à la perfection. Et nous, nous voudrions connaître un autre chemin. C'est pourquoi je dis souvent que nous devons accepter ces dimensions de la souffrance dans nos vies. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel. Nous ne devons pas trouver cela étrange. Nous sommes les enfants d'un Père qui nous aime tellement et qui nous fait participer à sa discipline pour nous amener à sa sainteté. Mais dans tout ce qu'il nous envoie comme épreuve, eh bien, il n'y a jamais de colère. Il n'y a plus de colère. Il était en colère contre nous, mais sa colère s'est détournée. Et cette colère, elle a frappé son fils. Mais pour nous, il n'y a plus de colère. Il peut y avoir châtiment, parce que nous sommes ses fils. Nous ne sommes pas des bâtards. Nous participons à la discipline, mais il n'y a jamais de colère contre nous. C'est pour notre bien qu'il nous discipline. Il fouette vraiment ceux qui l'agréent, et nous voulons bénir le Seigneur comme Job qui disait à sa femme, nous avons reçu les biens de la main de Dieu, et nous ne recevrions pas les maux. Et alors, au lieu de maudire Dieu, il peut dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce Jésus qui est devenu mon sauveur il y a 50 ans, ce Jésus qui s'est révélé comme étant mon Seigneur pendant toutes ces années, je vous le disais hier, ce qu'il est devenu. Il est devenu le bien-aimé de mon cœur. Et c'était là le témoignage tout simple que j'aurais voulu que vous puissiez retenir, que le Seigneur maintenant devienne votre bien-aimé. Et devenant votre bien-aimé, croyez-le, il veut vous accorder à vous aussi. Si vous le laissez occuper la première place dans votre vie, toutes les bénédictions possibles, comme j'étais heureux d'entendre mon frère chanter cela, toutes les bénédictions sont à votre disposition, mais il ne peut rien vous donner si vous n'acceptez pas de mourir. C'est tellement vrai. Et il y a si peu de gens baptisés qui ont compris ça. Et le baptême, justement, devrait signifier cela. C'est une des significations du baptême. Pour moi, je suis convaincu que de croire seulement que Jésus a porté nos péchés, ça ne nous mène pas loin. C'est vrai, ça. C'est une vérité évangélique. Jésus a porté nos péchés. Mais ce n'est qu'une vérité. Alors que la vérité, c'est que Jésus a voulu nous prendre, nous-mêmes, les pécheurs, pour nous donner la possibilité de mourir à nous-mêmes, d'être ensevelis avec lui, pour qu'aux yeux de Dieu, nous ayons cessé d'exister en tant que pécheurs, et que nous n'existions plus dans la foi que parfait en lui, rendu agréable et bien-aimé. Et c'est cela votre conscience. Ou bien est-ce que vous êtes tout le temps culpabilisé, malheureux parce que vous regardez vous-même, parce que vous voyez que vous ne faites pas les progrès que vous aviez espérés, comme si votre nature charnelle pouvait changer depuis votre conversion, ou subir une amélioration. Non, c'est la mort qu'il faut porter de cette nature, la condamnation de Dieu. Et si vous portez cette condamnation sur votre vie, en comprenant que si le Christ a dû mourir, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour nous de nous faire vivre d'une vie meilleure, eh bien, quand on a compris cela, on loue le Seigneur. Et la mort de Christ devient le secret de notre bénédiction. Si je meurs dans sa mort, et c'est une mort quotidienne, Saint Paul l'a dit, je meurs chaque jour pour que les vertus du Christ puissent se manifester pleinement en nous. Il faut que notre vie charnelle soit maintenue dans cette mort, et que désormais les choses en haut occupent mon esprit, prennent possession de mes pensées, parce que mes paroles ne sont que le prolongement de mes pensées, et mes actions n'en sont que le prolongement visible. Mes paroles, le prolongement audible, mais mes actions, le prolongement visible. Tout est là dans la pensée. Est-ce que nous pensons aux choses qui sont en haut? Est-ce que nous y sommes en haut? Si vous êtes ressuscité avec Christ, pensez aux choses qui sont en vous, et non à celles qui sont sur la terre. Et étant rempli de cette affection pour les choses d'en haut, pour les choses célestes, les choses de la terre perdent leur valeur. Ce ne sont plus les choses de la terre que nous poursuivons. Nous poursuivons celles qui sont en haut. Nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Et alors notre vie est transformée. Alors, mes amis, croyez-le, le chant que vient d'exprimer notre frère correspond à ce que l'Esprit de Dieu voulait vous faire entendre ce soir. Et maintenant, j'ai simplement à cœur, avant d'aller plus loin, de bien définir chaque mot que nous employons, afin de bâtir en vous ou de faire naître en vous le Christ dans chacune de vos vies, ou de le faire grandir si vous l'avez déjà reçu, afin que vous arriviez à la pleine mesure de la stature du Christ, pour que vous ne soyez plus seulement de ceux qui connaissent le petit Jésus, qui ont reçu le petit Jésus dans leur cœur. Et Jésus reste toujours petit dans leur cœur. Oh, vous direz, mais mon petit Jésus, il a la première place dans mon cœur. Mais c'est toujours le petit Jésus, mais il a la première place. Oui. Mais ce n'est plus le petit Jésus. Il a été petit. Et vous pouvez parler à vos enfants d'un Jésus qui a été petit, qui a été enfant. Mais Jésus a grandi. Jésus est devenu homme. Et quand il est mort, c'était dans la plénitude de sa force. Et Dieu le Père voudrait que nous puissions refléter la plénitude du Christ dans nos vies, nous amener tous à la pleine mesure de la stature du Christ. Combien y a-t-il de chrétiens qui montrent dans leur vie la stature du Christ? Quand l'épreuve est là, la stature du Christ, en présence de la mort, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et il y a des larmes, il y a eu des larmes. En présence de la mort, Jésus a pleuré, mais la mort était à lui. Et nous aussi, nous pleurons en présence de la mort, je vous l'ai dit hier, mais la mort, elle est à nous. Comme la vie, elle est à nous. Les choses présentes, elles sont à nous. Même en temps d'inflation, les choses à venir qui nous font peur, elles sont à nous. Et les hommes, quels qu'ils soient, ils sont à nous. C'est quelque chose de fantastique. Et nous, à qui sommes-nous? À nous-mêmes? Non, c'est ça la délivrance. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Et Christ, à qui est-il? Il est à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il peut nous arriver? Qu'est-ce qu'il peut vous arriver si vous allez au fond des choses? Au-dessous de vous, si vous tombez, qu'est-ce qu'il y a? Les bras éternels. Au-dessus de vous, l'ombre de la main du Tout-Puissant vous protège. Il est sur votre gauche, il est sur votre droite. Il marche devant vous pour aplanir les choses élevées, briser les barres de fer, casser les portes d'airain, vous donner des richesses que vous n'entrevoyez pas encore, les richesses des ténèbres et les trésors des lieux cachés. Et puis derrière vous, il est votre arrière-garde. La gloire de l'Éternel sera votre arrière-garde. Alors je voudrais donc que vous compreniez chacune de ces expressions que nous avons employées quand on nous a demandé ce thème, la pratique de la vie des vertus chrétiennes. Alors il y a donc trois mots que vous devez bien comprendre. Le mot pratique, le mot vertu, et le mot chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la pratique? Que veut dire pratiquer? Si on prend un dictionnaire, évidemment on n'est pas très bien renseigné. Quand on veut savoir ce que c'est que pratiquer, on a cette réponse, c'est mettre en pratique. On n'est pas beaucoup avancé. Hein? Mettre en pratique. Mais qu'est-ce que c'est que mettre en pratique? Eh bien, c'est mettre en usage, c'est accomplir des actes extérieurs. C'est ne pas s'en tenir à des théories, c'est avoir des habitudes. Et des habitudes, on en a des bonnes ou des mauvaises. Par exemple, une bonne habitude, c'est de refermer le couvercle quand vous êtes à l'eau des poules. Ça, c'est une bonne habitude. C'est une pratique. Il faut pratiquer. C'est avoir des habitudes. C'est s'exercer, c'est répéter soi-même les mêmes choses. C'est la pratique. C'est vivre. Maintenant, le mot vertu. Je vous ai dit que, étymologiquement, ce mot signifie force, énergie, courage. Et je dirais, c'est un état d'âme, c'est un état du cœur. Et la vertu, c'est une habitude du bien. C'est une qualité stable et non pas passagère. Et ce que je voudrais demander au Seigneur, c'est qu'il vous donne un caractère stable. Les gens aujourd'hui sont instables. Une des vertus chrétiennes, c'est la stabilité. Et quand Jésus nous habite, il y a une stabilité dans nos vies. Nous ne dépendons pas des circonstances bonnes ou mauvaises. Nous restons dans la paix. Nous restons dans la joie. Nous restons dans le calme. Nous restons dans la douceur face à tous les événements. Et même s'ils nous sont très favorables, nous restons dans l'humilité, la pratique des vertus chrétiennes. Oui, c'est une force qui nous amène à cet état d'âme, et cet état d'âme qui n'est pas passager, mais qui est notre état habituel. Et forcément, la source de toute vertu, vous inscriviez ça dans votre programme. Vous allez dire, oh non, c'est pas la trempe d'un martyr, moi non plus. Et pourtant, peut-être que c'est ça qui nous sera demandé. Vous vous rendez compte que c'est peut-être ça qui nous sera demandé. Tout à coup, le gouvernement peut changer, ça peut être un gouvernement antichrétien qui nous demande de renoncer à nos convictions. Si le christianisme n'est qu'une idée pour nous, nous flancherons. Mais si Christ est une personne, eh bien, nous connaîtrons le martyr, ça c'est certain. Être témoin, c'est être martyr. Et nous devons avoir aussi, si le Seigneur n'est pas revenu, l'idée que dans notre mort, nous pouvons glorifier le Seigneur. Ce n'est pas nécessaire que nous ayons une mort accidentelle. Ce n'est pas nécessaire que nous ayons une mort par la maladie. Il peut nous être demandé de donner à notre tour notre vie par amour pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Jésus ne trompait pas son auditoire. Et il décourageait même certains qui voulaient le suivre. J'aurai l'occasion de vous en parler demain. Nous, on voudrait tellement rendre facile le chemin. On voudrait tellement que les gens acceptent Jésus. Qu'on leur dit, bien, si vous acceptez Jésus, vous aurez ceci, vous aurez ça, vous aurez encore ça. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, dans tout son message et son authenticité, c'est renonce à toi-même. C'est vrai ou c'est faux? Vous êtes d'accord? Est-ce que Jésus l'a dit? Renonce à toi-même. Prends ta croix et suis-moi. Pourquoi? Parce que maintenant, tu pourras sculpter ta croix sur le calvaire, puis en faire une décoration. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre ta croix? Et le suivre? C'est pas pour avoir une croix comme décoration. J'ai rien contre une croix comme décoration, mais ce que je vous dis là, c'est vrai. Prendre sa croix, c'est être crucifié. C'est marcher à la même mort que lui. C'est mourir dans sa mort. C'est cela ce que le Seigneur a dit. Pour aller au Père, il faut passer par là. Mais quelle bénédiction. Alors, mais je ne vais pas faire de la philosophie, mais dans le langage philosophique, on parle donc de vertu infuse et de vertu acquise. Je vous le dis simplement en passant. Les vertus infuses viendraient donc de la grâce de Dieu, et puis les vertus acquises seraient des habitudes contractées par la répétition des mêmes actes, des mêmes impressions, des mêmes paroles. On dit par exemple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors ça serait une vertu acquise. Mais alors les autres seraient des vertus infuses qu'on recevrait de la grâce de Dieu. De sorte qu'on arrive à faire cette distinction, il y aurait des vertus d'ordre surnaturel et des vertus naturelles. Celles que nous recevons est celle que nous acquérons par nos propres efforts. Hein. Alors, il y a des vertus que nous recevons, par exemple, la foi, l'espérance et l'amour, dont je vous ai parlé, ces trois vertus théologales. La foi est un don de Dieu, l'espérance aussi, l'amour aussi est versé dans nos cœurs. Mais il y aurait des vertus que nous pourrions acquérir par nos propres efforts. Et personnellement, et à la lumière des Écritures, nous reconnaissons que nous sommes sans force et que c'est faux. Et que tout nous vient du Seigneur. Je sais que cela n'est pas aimé du monde. Quelles sont vos vertus naturelles? Vous les connaissez bien? Moi, je suis tellement doux. Trouvez-moi un peu vos vertus naturelles. Qui peuvent résister à tout ce qui peut arriver. Qu'est-ce que dit l'Évangile? Hors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien. Alors vous voyez qu'il ne faut pas suivre la philosophie. Parce que si vous suivez la philosophie pour être instruit au sujet des vertus, eh bien, vous serez sur une voie de mort. On peut étudier la philosophie, mais on peut aussi en juger et ne pas se laisser prendre par cette philosophie. Il est dit dans les Colossiens que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine philosophie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Quel est l'homme ici qui peut dire qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, depuis sa naissance? Quel est l'homme qui peut dire qu'il a aimé son prochain comme lui-même? Et vous savez que c'est ces deux commandements qui m'ont convaincu de péché. J'étais né dans une famille bien chrétienne. J'avais été élevé par des parents très stricts, mais qui aimaient le Seigneur et qui m'avaient fait aimer le Seigneur dans une certaine mesure. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que je ne l'aimais pas de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et alors, je me suis posé de sérieuses questions. Je me suis dit, si je n'aime pas Dieu, qui doit être l'être absolument aimable, c'est parce que moi je suis haïssable. Et c'est cela qui m'a convaincu de péché. Je n'avais pas tué, je n'avais pas volé, je n'avais pas commis adultère. Mais parce que je n'ai pas tué, je n'ai pas encore aimé, parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas encore donné, parce que je n'ai pas commis adultère, je ne suis pas encore un saint dans mes pensées. Alors je me suis vu, pour moi-même, pécheur perdu devant Dieu. Et quand j'ai contemplé la vie de Jésus et que j'ai su que seule cette vie pouvait entrer dans le ciel, qu'il n'y avait pas d'autre vie que celle de Jésus qui entrait dans le ciel, eh bien j'ai compris que moi, ma vie n'y entrerait jamais. Et alors si seule la vie de Jésus entre dans le ciel, il faut que j'accepte Jésus dans sa vie, qui me conduit dans sa mort et dans sa résurrection, et c'est par là que j'entre au ciel. C'est pourquoi la porte est étroite. Le chemin est resserré. Cela veut dire quelque chose. Qu'en est-il de vous, mes amis? Alors je vous disais, on a appelé vertu théologale ces vertus qui ont Dieu pour objet et qu'on appelle la foi, l'espérance et l'amour. Et on a appelé vertus morales toutes celles qui ont pour but de régler notre conduite vis-à-vis du prochain. Et pour résumer toutes ces vertus que l'on met en opposition à tous les vices, on en a choisi quatre sur lesquelles nous reviendrons dans les prochains jours, qu'on appelle les vertus cardinales, c'est-à-dire principales, parce qu'on voit en elles le fondement et le pivot de toutes les autres. Ces vertus cardinales sont comme des gonds qui servent d'appui à une porte. Et je le répète, il s'agit là de la force ou du courage, la première de ces vertus cardinales, de la justice, la seconde que l'on nomme, de la prudence et enfin de la tempérance. Et on pense qu'autour de ces quatre vertus cardinales, eh bien toutes les autres vertus morales en dépendent. Force, justice, prudence, tempérance. Alors autour de ces quatre vertus se groupent la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la douceur, l'humilité, la miséricorde, la sagesse, la connaissance, la piété, l'hospitalité, la pureté et toutes celles que vous voudrez encore. Vertu théologale, vertu cardinale, vous en savez assez maintenant sur la foi, l'espérance et l'amour. Mais qu'est-ce que pratiquer la foi pour vous? Qu'est-ce que pratiquer l'espérance pour vous en 1981? Qu'est-ce que pratiquer l'amour? Pratiquer la foi, ce n'est pas seulement avoir une croyance, une religion. Pratiquer la foi, c'est prendre Dieu au mot. Vous l'avez pris au mot quant à votre salut. Mais maintenant, quant à toutes vos circonstances, lisant la parole, étant nourri de la parole de Dieu, vous prenez Dieu au mot. Et ça change votre vie de prière. Vous allez à Dieu avec une promesse. Je ne vois pas une prière, moi, où on ne va pas à Dieu sans une promesse. Et alors, si vous allez à Dieu avec une promesse, vous avez la certitude de l'exaucement. Parce que ce qu'il a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Mais pour prier avec intelligence, il faut une connaissance de la parole. Et alors, Jésus pouvait dire, lui, à son Père, « Je sais que tu m'exauces toujours. » Et bien que nous soyons remplis de la connaissance de cette parole et que nous marchions par la foi. La foi nous a sauvés, mais maintenant, nous vivons pour la foi. Pour une foi qui produit des œuvres, et nous vivons deux fois. Une vie chrétienne, c'est une vie de foi. Il n'y en a pas deux. La première des vertus chrétiennes, c'est la foi. Et c'est ce que saint Paul essayait d'inculquer dans toutes les communautés qu'il a fondées. Il pouvait des fois y rester que peu de temps. Par exemple, à Thessalonique, il n'est resté que 3 semaines. Il a prêché 3 sabbats. Mais il peut écrire aux Thessaloniciens qu'on parle de leur foi, de leur espérance et de leur charité. Il leur a laissé ces 3 éléments, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est une foi qui a produit des œuvres chez les Thessaloniciens. C'est une espérance qui a produit chez eux la patience dans la tribulation. Et c'est un amour qui produisait un grand travail pour le Seigneur. On racontait, le monde racontait, comment il s'était détourné des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Eh bien, mes amis, vous qui avez cru que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, vous qui avez cru à cet amour de Dieu qui vous a donné son Fils, croyez maintenant quotidiennement qu'il vous donne, comme notre frère l'a chanté, tout ce que vous pouvez attendre, tout ce que vous pouvez désirer, c'est à vous. Tout est à vous. Mais la condition pour cela, c'est d'avoir passé par la mort avec le Seigneur. On n'attend plus rien du monde, et parce qu'on n'attend plus rien du monde, le monde aussi est à nous. Tout est à nous. Mais on peut passer dans le monde sans s'y arrêter, user du monde comme n'en usant pas. On n'a plus notre cœur à ces choses. On est bien obligé d'en user, on passe dans ce monde. Mais notre cœur n'est plus dans ces choses. Notre cœur est où? Là où est notre trésor. Là aussi est notre cœur. Et pratiquer l'espérance, bien c'est attendre le grand départ, mais en travaillant, comme l'a dit mon frère Hérode, en achevant le travail que le Seigneur a confié à son Église. Soyons de ceux qui achevons nos tâches et qui sont prêts pour le retour du Seigneur. L'espérance, c'est l'attente d'un bien que l'on désire. Quel est le bien que vous désirez? Le voir. Seigneur, il n'y a qu'une chose que je demande, c'est de te voir bien. Car quand je verrai, qu'est-ce qui se passera? Je lui serai. semblable. Nous lui serons semblables, nous le verrons comme il est. Et qu'est-ce que pratiquer l'amour? Relisez ce soir le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Vous verrez tout ce que l'amour ne fait pas et tout ce que l'amour fait. Et alors, pénétrez-vous de ces paroles, que ce ne soit plus un texte paulinien, le chapitre 13, mais que vous puissiez l'incarner et être une vive flamme d'amour, puisque au jour où je serai devant le Seigneur, je ne serai examiné que sur l'amour. Qu'en est-il de votre foi ce soir? Est-ce qu'elle se porte bien? Votre foi chrétienne, cette vertu, est-ce qu'elle est saine? Qu'en est-il de votre espérance? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que vous savez ce qu'elle recouvre? Un jour en France, dans une convention chrétienne organisée par des pasteurs très officiels, ils avaient choisi l'espérance comme thème. Puis dans la préparation, ils sont venus me dire, on est très embêtés, on ne trouve rien dans la Bible. Il n'y a pas grand-chose sur l'espérance. Incroyable. L'ignorance, même dans notre protestantisme, au sujet de l'espérance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au sujet de l'espérance. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de votre espérance? Est-ce qu'il y a une espérance en vous? Le monde sans Dieu, oui, il est sans Dieu et sans espérance. Mais vous, si on vous questionne, est-ce que vous êtes prêt, comme Pierre le dit, à répondre avec douceur et crainte de la raison de l'espérance qui est en vous? Quelle est ton espérance? Quelle vie? Tout le monde a cette espérance-là. Quelle vie?
La vie éternelle.
Tu l'as seulement en espérant?
Je crois.
Ou bien tu l'as maintenant?
Je l'ai maintenant.
Mais alors elle doit se manifester. Il y a un caractère de vie qui doit se manifester. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit de la vie éternelle dans nos vies? Parce que le monde en a assez, nos prétentions. Quand on voit vivre quelqu'un, est-ce qu'on voit qu'il est un authentique chrétien? Ou bien est-ce qu'il est exactement comme tout le monde? Parce que tout ce qu'il fait, on peut le voir chez le monde. Et même on peut voir des gens du monde qui des fois ont une vie qui a une qualité bien supérieure à celle de ceux qui se disent sauvés. Alors, faisons attention, la pratique des vertus chrétiennes, c'est ne plus dire « Jésus est mon sauveur » seulement, mais c'est que le monde dise « Jésus est leur sauveur ». Nous les reconnaissons comme ayant été avec Jésus. Eh bien, que Dieu nous sauve. Moi le premier. Et pour les soirées futures, le Seigneur m'a montré que je devais vous parler de toutes ces vertus qu'on appelle cardinales, mais qui comprennent toutes les vertus morales, en vous montrant dans ces 50 années de vie avec le Seigneur un exemple qui ne mettra pas l'homme en avant, mais qui mettra la gloire du Seigneur en avant. Prions. Nous n'avons pas d'excuses. Seigneur, ce soir, devant toi, nous voulons reconnaître que si nous ne sommes pas des bénis, c'est que nous avons refusé la bénédiction. Car toi, tu nous dis que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donne-nous de savoir ce que veulent dire les lieux célestes. Donne-nous de trouver le lieu où nous pouvons être bénis de toutes ces bénédictions. Et fais-nous comprendre que pour ce monde, nous devrions déjà être enterrés. Que le monde ne peut plus compter sur nous, comme nous, nous ne comptons plus sur le monde. Et que nous sommes déjà ressuscités pour apporter à ce monde une vie nouvelle, dans le quotidien. Seigneur, que nous ne soyons plus de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais que nous soyons de ceux qui vivent de tes vertus, qui te livrent leur corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, afin que tu puisses continuer visiblement ton incarnation dans chaque membre de ton corps. Et que tu aies la disposition de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de nos mains, de nos pieds, de notre cœur. Et qu'ainsi tu puisses te servir de nous. Que nous ne recherchions plus des moyens pour te servir, mais que nous nous donnions à toi pour que tu puisses te servir de chacun. Ô Seigneur Jésus, par ton esprit, fais-nous comprendre ce soir une vérité que nous n'avions peut-être pas vue. Déchire le voile et fais-nous entrer dans cette plénitude qui est en toi et dont tu voudrais nous faire jouir en nous disant vous avez tout pleinement en moi. Que nous allions à toi ce soir, que nous ne puissions pas nous endormir sans t'avoir dit « Seigneur, je veux te suivre, oui, là où tu es allé, car là où tu es, là aussi sera tes serviteurs et tes servants, pour la gloire du Père ou nous et par la puissance de ton Esprit.